Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par des scénaristes et qui pourtant aujourd'hui va parler d'une série et plus spécifiquement de son pilote. Bienvenue dans C'est quoi le pitch épisode 46. Aujourd'hui au programme on va parler de la série phare d'Apple TV, à savoir le Morning Show. C'est Guillaume au micro et pour parler de ce pilote j'ai autour de moi ma petite équipe de présentatrices télé. J'ai nommé Cédric, Marie et Fiona. On vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole. Immédiatement, le Morning Show écrit par Kerry Erin et Jay Carson, et c'est Marie qui nous le pitch.
15 ans qu'ils animent ensemble la matinale, Alex et Mitch forment le duo de présentateurs stars d'une chaîne d'infos. Quand Mitch est viré du jour au lendemain pour harcèlement sexuel, Alex se retrouve seule devant l'écran pour la première fois. Elle comprend alors que deux avenirs s'offrent à elle, profiter de ce drame pour rebondir ou couler à la suite de son coéquipier.
Très bien, alors on va commencer par les personnages et notamment... Personnage interprété par Jennifer Aniston. Cédric, tu vas peut-être pouvoir m'aider parce que cet Alex Lévy, je n'ai rien compris à ce personnage.
Ah, et bien pourtant, je l'ai trouvé assez caricatural, moi. je trouve qu'on comprend bien son enjeu. Ça fait 15 ans, effectivement, qu'elle co-présente la matinale avec Mitch. Et du jour au lendemain, elle se retrouve avec, comme elle le dit dans le pilote, son mari du bureau, son husband. Work husband, accusée de harcèlement sexuel, et du coup elle se demande si elle va couler avec lui ou pas, quoi.
Mais moi j'ai pas compris si ça lui faisait plaisir ou pas finalement.
Ça lui fait pas plaisir.
Parce que j'ai bien l'impression qu'elle était très contente d'avoir l'antenne pour elle et qu'elle disait non, maintenant c'est moi qui présente toute seule, j'annonce ça, vous me mettez
parce
pas
qu'elle a peur de
pattes.
Se faire évincer avec Mitch. Alors, pour c'est... moi c'est tout enjeu, et
parce que comme ils forment un duo, un binôme de toujours, est-ce que la question pour moi, la thématique de cette série, c'est le binôme, quand un coule est-ce que l'autre sombre avec lui?
Oui, mais pour moi il y a un coup de fil très très vite avec les producteurs de la chaîne qui la rassurent, qui disent non.
Ouais, mais il la rassure et à la fin du pilote t'apprends qu'en fait ils essayent de la virer.
Oui, et puis tu comprends aussi un petit peu avec cette histoire qui est un peu mis de il tardait à lui renvoyer à renouveler son contrat et elle se dit mince, c'était à cause des affaires d'harcèlement sexuel. On comprend après que c'était pas que ça, quoi.
Et on se demande aussi si elle si elle savait, parce que puisqu'elle se côtoie depuis 15 ans, quel était le niveau, enfin est-ce que elle découvre vraiment en même temps que tout le monde ces histoires de harcèlement sexuel, ou est-ce qu'on va découvrir dans la suite de la série que peut-être que elle a fermé les yeux comme tout le monde. On peut se poser ces questions-là.
Elle faisait partie de son harem, de son ami, tiens, parce qu'elle avoue qu'elle a couché avec
lui. Elle dit qu'ils ont couché deux fois ensemble en 15 ans.
Fait une fois tous les 7 ans et demi. Ouais, c'est pas.
Non,
je trouvais que c'était assez clair aussi, parce que là, effectivement, c'est soit. En fait, c'est deux choix. Elle est devant un dilemme très très clair pour moi, c'est soit elle coule avec Mitch, soit elle fait tout pour là dire c'est peut-être mon opportunité aussi d'être.
Oui, et du coup, désolidariser totalement et même de l'écraser encore plus pour rebondir. En fait, j'ai l'impression que c'est le choix, c'est trahir.
Soit tu rebondis, vraiment. Ouais. Tu peux pas rester, elle sait qu'elle peut pas rester au niveau et que elle le dit plusieurs fois que je crois son binôme. Enfin, cette émission repose sur leur alchimie, donc ce ne sera pas avec quelqu'un d'autre. Donc c'est soit elle est là seule, soit elle n'est plus là. Donc son dilemme, pour moi, il est clair. Après, moi, ce qui m'a dérangé, mais tout l'épisode, mais vraiment pour le coup, humainement, ça m'a vraiment énervé, c'est son partenaire depuis 15 ans. On dit qu'ils ont une alchimie telle que, enfin, ils sont pas en brouille. Elle ne l'appelle pas, elle ne répond pas à ses coups de fil.
Parce que c'est un aveu de qu'elle est de son côté, justement, elle sait pas encore ce qu'elle va faire. Ça fait partie du dilemme. Si elle répond, elle a déjà choisi.
Oui, mais du coup, elle a.
Je suis d'accord avec Cédric. Moi, ça la rend plus humaine parce que elle se retrouve jetée dans la cage au lion et elle a le temps. Elle a besoin de temps pour réfléchir. Sauf qu'en fait, elle en a pas du temps parce que 2 heures plus tard, c'est le direct. Elle doit prendre parti. Et donc, ne pas répondre, c'est déjà repousser un petit peu. Et je trouve que là où c'est bien fait, c'est que effectivement, il l'appelle plusieurs fois, elle ne le répond pas et à la fin, elle y va. Elle se déplace. Elle va traverser des bois. Elle arrive en guenille pour en esquivant tous les journalistes pour aller le voir. Et en fait, elle y va, elle le tabasse. Enfin voilà, elle est en colère contre lui.
Je trouve ça
humain. En fait, j'ai trouvé qu'elle était humaine parce qu'elle est égoïste.
Mais oui, elle est extrêmement égoïste. Mais en tout cas, moi je me dis quand même, il y a égoïste et égoïste. Dans le sens où, à quel moment tu t'appelles pas en disant juste c'est vrai ou c'est pas vrai? Quelle est ta version des faits? Que je sache, quoi. parce que ça doit pour moi peser dans sa décision de dire est-ce que je le défends ou pas.
Mais pour moi là c'est pas, ça peut pas peser dans la balance parce qu'on est sur une thématique politique qui parle de harcèlement sexuel et c'est extrêmement d'actualité et encore maintenant, enfin en ce moment au cinéma il y a le film Scandale qui traite de ça, donc j'ai l'impression qu'on n'en ressort pas de ces questions là donc elle ne peut pas prendre de questions de positionnement en sa faveur. En fait je pense que on serait tous enfin elle a le choix entre l'approuver, essayer de le sauver, et là, elle coule avec lui direct.
Ouais, ce que j'ai pas compris, moi, c'est qu'elle a l'air de tenir leur amitié énormément. Bah, c'est pas parce qu'il est accusé d'harcèlement sexuel, c'est plus son ami, hein, pour continuer à le voir. Elle va pas perdre son amitié.
Mais c'est sa carrière avant tout. Et on nous dépeint quand même un univers sans foi ni loi. C'est en ça que c'est un peu caricatural. Un univers où l'égoïsme règne en maître, où il faut marcher sur la tête des autres pour s'élever. Alors. Bon, ça doit être, enfin, c'est probablement vrai dans une certaine mesure, mais.
Mais c'est ça du coup qui m'a dérangé parce que en fait, sur leur lien, en fait, entre eux, je savais pas quel était vraiment leur lien. Est-ce que ils sont, c'est vraiment quand elle dit son mari de travail, est-ce que c'est quelqu'un forcément, elle doit beaucoup y tenir, ou alors est-ce que c'est vraiment que professionnel, parce que là, ce que je vois, c'est que professionnel.
Ah, pour moi, elle veut pas couler avec lui, hein, c'est tout.
Oui, voilà, c'est tout à ce moment-là, mais du coup. Leur alchimie à l'antenne, c'est vraiment que.
Bah moi, j'ai trouvé à l'inverse un truc qui manque, quoi. Très nuancé. J'ai trouvé ça à l'inverse très nuancé parce que tu peux avoir une relation forte professionnelle et d'amitié et même de compagnonnage. Parce que si ça fait 15 ans que tous les jours, ils se lèvent tous les deux à 3h30 du matin, elle le dit très bien. Ils sont les seuls à se comprendre mutuellement puisqu'ils sont les seuls à avoir tout sacrifié et à avoir cette vie pourrie où ils se lèvent à 3h30. Et, enfin, voilà. Et donc finalement, ils se comprennent parfaitement. Et j'ai trouvé que justement, moi, ça m'a plu, ce côté, elle est coincée entre les deux et elle doit se tirer de cette affaire et en même temps, c'est son amie, mais elle lui en veut, elle ne peut pas s'en empêcher. Mais j'ai trouvé ça plutôt touchant.
Et est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle est aussi agressive pendant l'interview de Bradley Jackson? J'ai pas compris pourquoi elle lui fait une espèce de rentre-dedans comme ça, hyper agressif.
Pour le coup, là, moi en plus, je te rejoins, Guillaume. Soudainement, je trouve qu'il y a eu un peu plaqué cette thématique de c'est mis en scène ou c'est vrai, la quête de la vérité a été plaquée sur le personnage de Jennifer Aniston, alors que pour moi, c'était clairement pas son sujet.
Alors, je suis d'accord que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais je trouve aussi que ça rejoint la thématique plus globale, notamment autour de cette histoire de harcèlement, c'est est-ce que c'est vrai ou pas.
Bon. Oui, mais on la voit pas du tout se poser la question. En fait, Jennifer, justement, c'est pour ça que c'est ça qui me dérange. Elle pense à sa carrière, mais elle se pose pas une seconde la question de se dire est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce que les allégations contre mon partenaire sont vraies ou pas.
Mais parce qu'elle sait que c'est vrai. Après, c'est à quel point c'est grave, la question. Enfin, il y a aussi cette question-là, mais je pense que.
Du coup, elle n'est pas en recherche de vérité. Donc, du coup, elle a pas besoin d'être aussi virulente avec Bradley Jackson en disant mais vous saviez qu'il y avait des caméras, pourquoi d'un coup elle s'en prend à cette
femme-là. Sauf si elle sent qu'elle va être remplacée par cette fille-là ou qu'ils vont lui coller le binôme. Ah, ça dépend après.
À ce moment-là, nous on le sent.
Si ça fait 15 ans qu'elle travaille dans cette chaîne et qu'elle est au courant un peu des coups fourrés.
Moi, j'avais le sentiment aussi que cette interview, elle arrivait à un moment où c'est un raz-de-marée dans sa vie et effectivement, elle fait des mauvais choix. Elle s'énerve. Et peut-être aussi que.
Elle n'a pas dormi, elle a bu. Non, c'est ça.
Voilà. Et puis surtout, avant, sa présentation reposait sur un binôme où on se dit, il y avait peut-être le good cop, bad cop. Enfin, en tout cas, il y avait une sorte de. C'était régulé, ça ronronnait. Et là, elle se retrouve toute seule et d'ailleurs elle dérape, tu vois. Je trouve que finalement ça marche pas trop mal, c'est que pour une fois qu'elle est toute seule, elle foire cette interview, elle devient méchante, on lui dit non, arrête dans l'oreillette, calme-toi, et elle écoute pas, donc on se dit peut-être que Mitch lui a porté ça.
Bon, il est temps de passer à la Bradley Jackson, hein, qui pour moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu un personnage aussi raté personnellement. Elle est en colère et hurle à chaque scène. Ça commence par cette scène où je comprends pas comment on peut faire une scène de caractérisation comme ça, où elle hurle sur un mineur en disant. Alors je l'ai regardé en français et en anglais, les deux c'est une catastrophe. Mais je suis fatiguée! Elle chope un mec par le mec fait deux fois sa taille. Bon, ensuite elle fait ils essaient de faire la scène, la meuf hyper bien caractérisée qui connaît hyper bien ses sujets, donc ok, elle fait professionnelle, est-ce que t'es obligé d'en faire une cinglée? Ensuite, elle a son altercation avec son patron qui disait ouais, t'as dit deux fois le mot putain. Ah ouais, si c'est comme ça, je démissionne. Bon, ensuite, elle va chez sa mère, mais t'es qu'une salope, maman, t'as fait sortir notre fils de notre frère de réhab alors qu'il avait besoin. Elle hurle, même quand elle est toute seule et que finalement elle va à New York, elle assassine, elle fait putain, je déteste New York, hein, quand même. J'ai l'impression qu'ils ont essayé tellement d'en faire une femme forte qu'elle en devient absolument ridicule.
Là aussi, je te rejoins. Je l'ai trouvé. Enfin, je trouve que sa scène de vidéo qui devient virale. Moi, je me dis pas, waouh, les gens ont envie d'entendre ça. Moi, je me dis, regardez-moi cette hystéro. Elle est vraiment hystérique. Elle est tarée, quoi. Enfin, je dis, elle est cinglée cette meuf. Comme elle, d'accord, elle dit, oui, je suis fatiguée. Ce n'est pas du tout le sujet. Et en plus, ce mec-là n'a rien fait. Enfin, il a bousculé un caméraman. Enfin, et d'ailleurs, pourquoi ce mec-là n'y connaît rien ? Je comprends pas. Bon. Bref, c'est pas un autre journaliste qui a été bousculé. Si ça avait été une altercation avec un autre journaliste, j'aurais plus pu comprendre.
En fait, là, j'ai l'impression que le sentiment, c'était vraiment de vouloir camper deux journalismes très différents l'un de l'autre. Un journalisme qui ronronnant, de canapé, où on la voit à un moment donné, Jennifer Aniston, elle essaye de peindre, ou je sais pas quoi, ils font des émissions débiles, quoi. Ils parlent de comment transformer. Vos bouteilles de enfin bon bref de, bah, des sujets à la con de matinale voilà des émissions du matin avec du journalisme de terrain avec des gens engagés parce que elle est engagée, elle est jusqu'au boutiste, c'est une meuf tranchante, elle ne fait pas de compromis. Et Jennifer Aniston, c'est un personnage qui ne fait que des compromis tout le temps.
Moi je trouve qu'on ne l'a pas vu à ce point-là. Je pense que ce journalisme ronronnant, moi il me manque un petit peu en fait de leur émission comme elle était, même si on la voit dans les petites pastilles. Moi, je vois pas quel genre de journaliste est Jennifer Aniston. Je sais pas, je sais que c'est une émission du matin et qu'on me dit que c'est ronronnant, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu une nana faible.
On dit que c'est la maman de la télé. Okay, mais voilà, mais tu vois.
J'ai pas vu l'opposition aussi frontale entre Bradley Jackson et elle. Pour moi, bon, c'est une nana sympathique. Elle a peut-être un peu. J'allais dire Hélène DeGeneres, non, parce que c'est pas une rigolote, mais. Oui, c'est la nana sympa que t'aimes bien voir à la télé. Ça veut pas dire qu'elle est pas engagée, ça veut pas dire qu'elle dit qu'elle ment. Donc je crois que c'était un peu raté cette opposition.
Oui, surtout qu'il joue un peu le contraste de Jennifer Aniston, pas la vieille mais la fille qui est là depuis longtemps, et puis Bradley un peu la petite Jeannette et tout. J'ai regardé sur Wikipédia, ils ont 7 ans d'écart. Hein,
oui, sûr que la différence d'âge joue pas vraiment. Après, la différence de caractérisation, elle est bien martelée. Et puis, il y a cette scène qui est une scène de duel presque, de l'interview, où elle martèle encore une fois leur vision réciproque du journalisme. Moi, j'ai trouvé que ça a fonctionné, mais que c'était pas très subtil en fait. Mais bon, après.
Moi, c'était à côté. C'était un petit peu à côté à chaque fois en fait. Et justement, même ce duel d'interview, je trouvais que c'était pas mal foutu, mais en fait, pareil, je me disais, mais bon, elle s'en prend à elle en disant, vous avez tout mis enfin, il faut rester le sujet, enfin, il faut que le sujet reste le sujet de l'interview et pas que vous deveniez vous-même le sujet. Je crois que c'était bien dialogué, mais pareil, je me dis, mais pourquoi ce personnage de Jennifer Aniston dit ça et en quoi elle serait le contre-exemple ou l'exemple, enfin. Je trouvais que c'était presque ça sortait d'une autre série. Parce carrément. Que
pour moi, c'est une journaliste qui est pas du tout engagée. Elle est présente, elle passe plat, tu vois.
On l'a pas vu. Et même si elle est passe plat, ça veut pas dire que.
Elle est présentatrice.
Elle est présentatrice. Donc c'est pareil, je vois, c'est pour ça que c'est pas ton deux journalismes qui s'affrontent. Effectivement, présentatrice, c'est pas pareil que journaliste. Et là, on m'a montré une présentatrice, je lui demande pas d'avoir des opinions sur les sujets.
En fait, pour moi, Jennifer Aniston, c'est vraiment. c'est vraiment une meuf qui a été journaliste et qui a oublié ce métier pour devenir présentatrice.
Mais ça, c'est dans ta tête que tu te le fais. Hein. Tu vois, c'est pas ce qu'on voit dans le pilote.
C'est suggéré quand même dans le pilote. Mais...
Bon, on va passer au dernier personnage qui est Mitch Kessler. Alors, bizarrement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour moi, c'était le meilleur perso. Parce que c'était le seul que. Enfin, j'avais de l'empathie pour lui, je comprenais tellement. C'est un connard, mais c'est pas un énorme connard. Et comme il le dit lui-même, il est très beau d'ailleurs, il était beaucoup, beaucoup plus beau que dans The Office. Et les filles devaient se jeter sur lui. Donc au bout d'un moment, il disait oui, et lui, il considère pas que c'est du harcèlement parce qu'il le dit, les meufs se jetaient sur moi, d'accord, c'est pas moi qui ai inventé la tromperie. Et je comprenais ce personnage pour lui qui considère dans sa tête qu'il a rien fait de mal.
Alors ça, c'est sa vision. Hein. C'est sa vision. Attendons l'opinion des victimes, enfin de l'autre côté.
Je comprends son point de vue, en fait. Contrairement à Jennifer Aniston, je l'avais complètement perdu, et l'autre qui était pour moi un cliché sur pattes, lui au moins j'arrivais à comprendre. Je lui dis, il a sûrement tort, mais il s'en rend pas compte. Et ça, pour moi, ça fait un personnage intéressant.
Oui, de toute façon, c'est vrai qu'on a envie de voir comment ils vont traiter ce sujet-là par la suite. Le personnage n'est pas très présent dans le pilote, le personnage de Steve Carell.
Oui.
C'est vrai qu'il est. Mais je le trouve caricatural, en fait, comme les deux autres personnages.
Ah, c'est vrai, quand il détruit sa télé à coups de batte de baseball.
Ouais, c'est-à-dire que...
Et même le plan du drone sur sa maison. Regardez comme il est très, 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 très riche. Je sais pas, on dirait que tout est appuyé. Bon, elle aussi, elle a un appartement magnifique. Mais voilà, sa richesse est encore plus appuyée.
C'est vrai qu'il y a un petit côté... La série nous parle de deux bourgeois qui ont suffisamment de pognon pour vivre toute leur vie et qui ont perdu leur boulot. On s'en fout un peu, honnêtement. Mais bon, les riches ont le droit d'avoir des problèmes. C'est ce que nous a dit Dallas. C'est ce que nous a appris Dallas, hein, cette série. Les riches ont le droit d'avoir des problèmes, mais aussi, c'est vrai, ils souffrent. C'est vrai. Bon, Marie, sur Mitch.
Oui, alors moi, j'ai trouvé qu'il y a une question dans ce pilote qui reste en suspens. Effectivement, c'est est-ce qu'il est coupable ou non. Et il fait lui-même une petite, un petit clin d'œil à l'actualité en disant « Oui, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que c'est à cause de Weinstein. » Et... là, on se demande quand même comment ça va être traité dans la suite. Est-ce que... forcément, la série se positionne par rapport à ça, j'en suis sûre et certaine, mais du coup, on se demande un peu comment. Comment ils vont s'en sortir ?
Au regard que du pilote, je trouve que ça, c'est, pas, c'est un propos moi, qui est plutôt original et qui se défend, en tout cas, qui dit, attention... chasse aux sorcières et dès qu'il y a quelqu'un qui a eu une suspicion d'eux, c'est surtout en télévision, au placard, il faut surtout pas être associé.
Oui, parce que le mec se fait virer, l'enquête n'a même pas été jusqu'au bout.
Procès, voilà.
C'est très américain.
Et d'ailleurs, il y a une blague sur MeToo et tout, et je me dis, tiens, ça c'est original de la part des Américains de traiter ça, mais tu te dis, attention, justement pour les Américains, pente glissante, et même pour tout le monde, mais en même temps, moi je trouve ça intéressant de dire, peut-être que ce mec effectivement n'a rien fait, etc. Pourquoi pas ? Je suis sûre que ça va pas aller là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est touchy comme sujet.
Bah, au moins ça, dire que bon, le scénario, moi, j'ai trouvé globalement mauvais. Mais comme tu dis, au moins, il y a eu une petite prise de risque, pas une énorme prise de risque. Mais tu sens, et là, tu sens, les, il y a dû avoir mes 2000 versions du scénario pour juste, est-ce que ça va être, oui, ça va être corrosif, mais pas trop, puis quand même un petit peu. Puis tu sens la réécriture 20 000 fois de toutes les scènes, de tous les dialogues pour que ça soit juste subversif ce qu'il faut. Mais pas trop, parce que ça reste quand même Apple, hein, ça reste quand même une espèce d'énorme boîte. Ils sont pas HBO, c'est pas Netflix, ils peuvent pas prendre autant de risques. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand public que sur les chaînes de câble.
Ça sent. Hein.
Ça sent, et ça, honnêtement, les scénaristes, bah, je dis bravo, franchement, vous avez réussi à trouver le petit milieu qui était quand même pas mal. Oui, Marie ?
Au niveau du scénario, je me questionne aussi sur la temporalité. Parce que finalement, ce premier épisode, il se déroule en 24 heures, à peu près, quoi. Et on se demande un petit peu si ce duo qui va être formé entre ces deux présentatrices, est-ce que la série se passe en une semaine ou est-ce qu'elle se passe en deux mois ? Finalement, là, on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la temporalité sur ce pilote était très tendu. Enfin, il y a du suspense. On est presque en flux tendu avec eux finalement, et c'est comme ça qu'est la télé. Donc j'ai trouvé que ça marchait bien.
Presque en temps réel en fait.
Ouais.
Bah, y a un moment où moi je me suis dit, il y a une erreur de scénario parce qu'au moment où elle présente son émission, Jennifer Aniston, il fait nuit, donc c'est à New York, donc c'est tout à l'est. Et puis pourtant quand Bradley elle présente son émission, il fait jour. Donc et elle est en train de regarder en direct. Donc je me suis dit, ah, c'est bizarre. Mais en fait, en revoyant, non, il fait jour quand Jennifer Aniston présente. Donc je m'excuse. Je m'excuse, série, d'avoir presque dit du mal de toi. Voilà.
Moi, c'est ça qui manque, je pense, dans ce pilote. C'est une trajectoire très claire et qu'est-ce que vous voulez nous dire, quoi. Parce que.
Pour moi, la thématique, c'est celle du duo. Un peu flou. Mais bon, j'ai l'impression que je suis la seule à avoir vu ça.
Comme tu parlais
de la vérité aussi.
Bradley.
C'est vrai.
Ce personnage de Bradley, bon, moi, je reproche aussi le fait que, à partir du moment où tu vois Bradley qui fait son truc.
Oui, alors, tu sais très bien qu'elle va finir.
Merci Marie.
Elle va remplacer Mitch.
Oui,
c'est évident.
Ah, mais tout un peu cousu de fil blanc, de toute façon.
Je me suis demandé justement si on allait le voir à la fin du pilote. On allait voir le nouveau duo formé ou pas, parce que bon, c'est gros comme une maison. Et ils n'ont pas poussé jusque-là, il me semble pas.
Non, ça se termine sur un coup.
D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un duo ou si elle va tout simplement lui piquer sa place.
Peut-être qu'on va être étonnés dans le deuxième épisode et qu'il n'y aura pas le duo.
Bon, on va parler d'autres personnages. Non, mais de toute façon, là, c'est vrai que quand on parle de film, on parle souvent de la thématique. Pour un pilote, c'est dur parce qu'en fait, la thématique, en général, elle regroupe toute la saison et c'est justement même dans le dernier épisode qu'on comprend ce que la série voulait dire. Donc là, on tâtonne un peu. Surtout que là, pour le coup, on a vu aucun épisode. On a regardé que le pilote. Donc la thématique, c'est un peu compliqué. Donc tour final sur cette série. Pour les séries, je demande. Cédric, est-ce que tu vas regarder la suite ?
Oui, mais et je vais dire pourquoi pour la thématique justement du harcèlement sexuel, parce que je suis très curieux de voir comment ils peuvent traiter le personnage de Mitch sans se tirer une balle dans le pied. Et donc, rien que pour ça, j'ai vraiment envie de regarder.
Marie ?
Ben, je pense que je regarderai la suite aussi. Moi, j'ai trouvé que les dialogues étaient particulièrement bien écrits et que c'était assez efficace. Ça m'a plu. Ça m'a aussi fait penser à un film que j'ai vu il y a 10 ans au cinéma et que je vous recommande, même s'il a peut-être un peu vieilli, qui s'appelle Morning Glory et qui parle aussi d'un binôme de présentateurs avec Harrison Ford et Diane Keaton, de mémoire, mal assorti sur une matinale.
Oui, ça me dit quelque chose. Fiona.
Je suis un peu mitigée parce que j'ai trouvé ça un petit peu grossier, moi. Enfin, pas déplaisant, mais ouais, ça manquait vraiment de subtilité et même ce qu'on se disait un peu dans le jeu, même de. Je suis désolée, Jennifer, mais voilà, je crois que c'était pas terrible.
Tout elle n'a pas un rôle facile.
Non, elle n'a pas un rôle facile. Voilà, mais même, j'ai envie de dire, même les éclairages étaient trop gros. Je sais pas, tout était très gros, quoi. Donc, je pense que je regarderai un épisode de plus pour voir si ça m'a. Parce que finalement, effectivement, le personnage qui m'a le plus intéressé, c'est Mitch. Alors qu'on le voit pas beaucoup. C'est lui que j'ai en plus envie de suivre. Et c'est vrai que le personnage, par contre, de Bradley Jackson ne m'intéresse pas du tout, quoi.
Bah écoute, un peu comme toi, sauf que moi je vais plus loin, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment mauvais, je me suis vraiment ennuyé en regardant ça. C'est-à-dire que Jennifer, je la comprenais pas, Bradley m'énervait, et Mitch, quel seul intéressant, on le voit pas souvent. Donc Apple savait déjà pas faire d'ordinateur, donc ils savent pas faire de série maintenant. Donc un conseil, si ça existe un jour, si un jour vous êtes malade et qu'il y a des hôpitaux Apple, bah n'y allez pas, hein, parce que clairement vous serez mal soigné. On vous remercie de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.
Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner. Ils n'en ont rien à foutre du reste. Ils se fichent de la misère des gens. Et ça me révolte. Ça me rend malade.
C'est bon, ça va. Du calme.
Me touche pas.
Ça va, c'est bon.